Et il faisait grand jour lorsqu'ils se mirent en marche. Et lentement et prudemment, ils quittèrent le pays des roseaux et des saules nains et parvinrent jusqu'au bois grisonnant qui couvrait une grande partie de la plaine aux abords de Nargothrond. Toute la journée, ils cheminèrent droit vers l'ouest et ne virent que désolation et n'eurent écho de rien, car les terres faisaient silence et à Mablung, il sembla qu'une vivante épouvante recouvrait les environs. Ce même chemin, Beren l'avait foulé des années auparavant, et en ce temps-là, les regards camouflés des chasseurs emplissaient les bois. Mais à présent, le peuple du Narog s'en était allé, et apparemment les orques ne rôdaient pas encore si loin au sud. Cette nuit-là, ils campèrent dans la grisaille de la forêt, sans feu ni lumière. Les deux jours suivants, ils poursuivirent leur route et 3 jours après avoir quitté le Sirion, ils atteignirent la plaine, vers le soir, et s'avancèrent jusqu'à la rive ouest du Narog. Et là, une telle angoisse s'empara de Mablung qu'il supplia Morwen de ne pas pousser plus avant. Mais elle ne fit que rire et dit « Sous peu, comme c'est fort probable, tu auras le bonheur d'être débarrassé de nous. Mais il te faut nous supporter encore quelque temps. Nous touchons de trop près au but maintenant pour tourner bride par peur. » Alors Mablung s'exclama « Vous êtes folles l'une et l'autre, et d'une folle témérité. Vous ne favorisez nullement la quête de renseignements, mais l'entravez bien au contraire. Maintenant, écoutez-moi. On m'a enjoint de ne pas vous retenir de force, mais aussi de vous protéger de tout mon pouvoir. En ce mauvais pas, je ne puis faire les deux, et je choisis de vous protéger. Demain, je vous conduirai sur l'Amon Ephir, la colline des espions, toute proche. Et là, vous patienterez sous bonne garde, et vous n'irez pas plus loin, tant que c'est moi qui commande ici. » Or, l'Amon Ephir était une butte de la hauteur d'une colline que Felagund avait fait ériger jadis à grand labeur dans la plaine devant ses portes, à une lieue à l'est du Narog. Une butte plantée d'arbres, sauf à son sommet, et d'où l'on pouvait surveiller l'horizon et toutes les routes menant au grand pont de Nargothrond et toutes les terres alentour. Ils l'atteignirent en fin de matinée et gravirent son flanc est. De là, scrutant le haut Faroth, brun et dénudé au-delà de la rivière, Mablung distingua avec la vue perçante des elfes les terrasses de Nargothrond sur le versant escarpé à l'ouest et tel un minuscule point noir sur la gigantesque façade, les portes béantes de Felagund. Mais il ne percevait aucun bruit, ni n'entrevoyait le moindre signe de l'ennemi ou la moindre trace du dragon, sinon les ravages de l'incendie qu'il avait déchaîné tout autour des portes le jour du sac. Tout reposait silencieusement sous un pâle soleil. Or donc Mablung, comme il l'avait dit, donna ordre à 10 de ses cavaliers de veiller sur Morwen et Nienor au sommet de la colline et de n'en point bouger jusqu'à son retour, sauf en cas de péril immédiat. Et si cela devait advenir, les cavaliers avaient pour ordre de placer Morwen et Nienor au milieu d'eux et filer à bride abattue vers l'est en direction du Doriath, en dépêchant l'un d'eux en avant pour porter la nouvelle et demander du secours. Là-dessus, Mablung prit avec lui les 20 autres, et ils se glissèrent au bas de la colline, puis traversant les champs à l'ouest, où les arbres se faisaient rares, ils se dispersèrent, et chacun s'en alla de son côté, audacieux mais prudent, rallier les rives du Narog. Mablung, quant à lui, prit le chemin du milieu, et se dirigea vers le pont, et arrivant à sa bordure, il le trouva effondré. Et le fleuve, profondément encaissé, grossi par les pluies abondantes tombées plus au nord, se déchaînait, écumant et grondant parmi les pierres éboulées. Mais Glaurung était tapis là, dans l'ombre du grand passage qui conduisait à l'intérieur des portes en ruine, et il avait repéré depuis longtemps les éclaireurs, bien que rares eussent été les habitants de la terre du milieu capables de les discerner. Mais le regard de ses prunelles féroces était plus perçant que celui des aigles et portait beaucoup plus loin que la vue acérée des elfes. Il savait même qu'une partie d'entre eux était restée en arrière et qu'ils attendaient sur la cime dénudée de l'Amon Ephir. Or donc, juste comme Mablung se frayait un chemin parmi les rochers pour franchir à gué la rivière déchaînée en passant sur les débris du pont, soudain surgit Glaurung dans une puissante gerbe de flammes. Et il se coula dans le lit de la rivière, d'où monta un vent méphitique, et la vapeur jaillit de tous côtés. et Mablung et ses compagnons qui rôdaient alentour furent plongés dans une buée aveuglante et une puanteur fétide. Et la plupart s'enfuirent à tâtons vers la colline des espions. Mais comme Glaurung passait le Narog, Mablung se jeta de côté et se blottit sous un surplomb rocheux et n'en bougea plus. Car sa mission, lui semblait-il, n'était pas accomplie. Certes, il savait désormais que Glaurung se tairait à Nargothrond, mais on lui avait aussi enjoint d'apprendre, si faire se pouvait, la vérité sur le destin échu au fils de Hurin. Et intrépide de cœur, il se proposait de franchir le fleuve sitôt Glaurung parti et de fouiller les décombres des salles de Felagund. Car il pensait avoir tout fait pour assurer la sécurité de Morwen et de Nienor. Du haut de la colline, l'approche de Glaurung serait remarquée, et à cet instant même, les cavaliers filaient, croyait-il, à toute allure vers le Doriath. Ainsi Glaurung glissa-t-il devant Mablung, monstrueuse silhouette dans le brouillard. Et il allait vite, car c'était un ver énorme, mais néanmoins souple et agile. Et Mablung, à sa suite, passa à gué le Narog au péril de sa vie. Mais les guetteurs sur la Mon Ephyr aperçurent le dragon émergeant de son antre et ils furent épouvantés. Et ils engagèrent incontinent Morwen et Nienor à prendre cheval sans disputer et à fuir vers l'est comme ils en avaient reçu l'ordre. Mais à peine débouchaient-ils en plaine, après avoir dévalé le versant de la colline, que le vent méphitique leur souffla au visage des miasmes pestilentiels et la puanteur était telle qu'aucun cheval ne la pouvait endurer. Alors, aveuglés par le brouillard et affolés par le relent du dragon, les chevaux prirent le mort aux dents et s'emballèrent, courant de tous côtés, sans pouvoir être maîtrisés. Et les gardes furent dispersés et jetés contre les arbres, et souvent blessés gravement. Ou encore, ils erraient, se cherchant vainement les uns les autres. Et les hennissements des chevaux et les clameurs des cavaliers vinrent aux oreilles de Glaurung, et il en fut réjoui. Un des cavaliers elfes, luttant avec son cheval dans le brouillard, vit la dame Morwen passer au galop, spectre gris sur une monture déchaînée. Et elle s'évanouit dans la brume, criant « Nienor !» Et on ne devait plus jamais la revoir. Lorsque l'aveugle terreur s'empara des cavaliers, le cheval de Nienor s'emporta lui aussi et trébuchant la jeta à terre. Chutant doucement sur l'herbe, elle ne se fit aucun mal, mais lorsqu'elle se releva, elle était seule, perdue dans les nuées, sans cheval ni compagnon. Mais elle ne se laissa pas abattre et se prit à réfléchir. Il lui parut vain de se diriger ici ou là d'après les cris, car ses cris l'environnaient de toutes parts et allaient d'ailleurs s'affaiblissant. Dans pareille situation, mieux valait, pensa-t-elle, chercher à regagner la colline. Nul doute que Mablung y monterait avant de repartir. Ne serait-ce que pour s'assurer qu'aucun de ses hommes ne s'y était attardé. Et marchant au hasard, elle sentit le sol s'élever sous ses pas et retrouva la colline, en fait toute proche. Et lentement, elle gravit le sentier qui y conduisait par l'est. Et à mesure qu'elle grimpait, le brouillard se dissipait, et c'est finalement en plein soleil qu'elle déboucha sur le sommet dénudé. Et elle s'avança et tourna ses regards vers l'ouest. Et face à elle se dressait la tête gigantesque de Glaurung qui s'était hissée au même instant par l'autre versant. Et avant même d'en être consciente, elle avait plongé ses yeux dans les siens, des yeux terribles, imprégnés de l'esprit maléfique de Morgoth, son maître. Et Nienor lutta contre Glaurung, car elle était de forte volonté, mais il mit tout son pouvoir à l'œuvre. « Que cherches-tu ici ? » dit-il. Et contrainte de répondre, elle dit « Je cherche seulement un nommé Turin qui a vécu un temps en ces lieux, mais peut-être est-il mort ?»«
Je l'ignore, » dit Glaurung. « On l'a commis ici à la défense des femmes et des plus faibles, mais j'ai paru, et il les a incontinent abandonnés et a pris la fuite. C'est un arrogant, mais un poltron, semble-t-il. » « Pourquoi cherches-tu un de son espèce ?»«
Tu mens, » dit Nienor. « Les enfants de Hurin ne sont pas lâches. Cela au moins ils ne le sont pas. Et nous n'avons pas peur de toi. »
Alors Glaurung se mit à rire, car par ces mots, la fille de Hurin se révélait à lui et à sa malveillance.
« Eh bien, vous êtes des sots, toi et ton frère, » dit-il. et ta superbe te sera de piètre secours, car je suis Glaurung. »
Alors il la força à plonger ses yeux dans les siens, et la volonté de Nienor défaillit. Et il lui sembla que le soleil dépérissait et tout se brouilla autour d'elle. Et une profonde obscurité lentement l'envahit. Et au cœur de cette obscurité, il n'y avait que néant. Elle ne savait rien, elle n'entendait rien, et elle ne se souvenait plus de rien.
Longtemps, Mablung explora les salles de la grande forteresse de Nargothrond du mieux qu'il put dans les ténèbres et la puanteur. Mais il n'y trouva aucune vie. Rien ne remuait parmi les ossements et personne ne répondit à ses appels. Au bout du compte, oppressé par l'horreur du lieu et redoutant le retour de Glaurung, il revint aux portes. Le soleil déclinait à l'ouest et les ombres du Faroth, à l'arrière-plan, assombrissaient les terrasses et le fleuve sauvage en contrebas. Mais au loin, sous l'Amon Ethir, il crut distinguer la forme hideuse du dragon. Plus dure et périlleuse encore fut sa seconde traversée du Narog dans la précipitation et l'effroi. Et à peine avait-il pris pied sur la rive est et s'était-il tapi à l'écart sous la berge que Glaurung s'approcha. Il allait maintenant lentement et furtivement, car il avait consumé tous ses feux. Un grand pouvoir s'était échappé de lui, et à présent, il lui fallait refaire ses forces et dormir dans les ténèbres. Il se faufila donc dans les flots et rampa jusqu'aux portes, tel un énorme serpent gris cendré recouvrant la terre de la vase traînée par son ventre. Mais avant d'entrer, il se retourna et porta son regard vers l'est, et de la créature s'échappa le rire de Morgoth, immonde mais assourdi, tel l'écho d'une malveillance issue de noirs et lointaines abîmes. Et une voix glaciale et profonde résonna ensuite.
« Tu es là, mussé sous la rive comme un campagnol, Mablung le puissant. Tu t'acquittes bien mal des missions de Thingol. À présent, hâte-toi jusqu'à la colline et vois ce qu'il est advenu de ta charge. »
Et Glaurung se faufila dans son antre, et le soleil sombra à l'horizon, et un gris crépuscule souffla froid sur tout le pays. Mais Mablung s'empressa de retourner sur la Mon Ethir, et comme il atteignait le sommet, les étoiles s'allumèrent à l'est. Dans leur clarté, il discerna, sombre et figée, une silhouette debout, telle une image de pierre. Ainsi se tenait Nienor, qui n'entendit rien de ce qu'il lui dit et ne lui fit pas réponse. Mais lorsqu'enfin il lui prit la main, elle remua et se laissa emmener. Et tant qu'il la tenait, elle suivait, mais dès qu'il la lâchait, elle s'immobilisait. Et combien pesants furent le chagrin et la perplexité de Mablung. Mais il n'avait d'autre choix que de conduire Nienor de cette façon. Et longtemps ils cheminèrent vers l'est, sans nul secours ni compagnie. Et ils passèrent ainsi, marchant tels des somnambules, dans la plaine enténébrée par la nuit. Et lorsque le matin revint, Nienor trébucha et tomba et demeura à terre sans mouvement. Et Mablung s'assit à son chevet en proie au désespoir.
« Je redoutais cette mission, et avec bonne raison, dit-il, car ce sera, semble-t-il, ma dernière. Auprès de ce malheureux enfant des hommes, je périrai dans les solitudes sauvages, et mon nom restera un objet d'opprobre aux Doriath, si tant est qu'on y apprenne quelque chose de notre sort. Nul doute que tous les autres ont péri, et qu'elle seule fut épargnée, mais non point exemptée. »
Ils furent découverts en cette situation par trois de la compagnie qui avaient fui le Narog à la venue de Glaurung, et après avoir longtemps erré, étaient retournés vers la colline lorsque le brouillard s'était dissipé. Et n'y trouvant personne, ils s'étaient résolus à reprendre le chemin du Doriath. L'espoir se réveilla en Mablung, et ils repartirent ensemble, bifurquant vers le nord et à l'est, car nulle route n'accédait au Doriath par le sud, et depuis la chute de Nargothrond, les gardes postés au passage des Bacs avaient ordre de ne faire traverser que ceux qui venaient de l'intérieur du pays. Ils allaient lentement, comme des gens qui conduisent un enfant fatigué. Mais à mesure qu'ils s'éloignaient de Nargothrond et se rapprochaient du Doriath, Nienor reprenait peu à peu force et marchait avec docilité, heure après heure, conduite par la main. Et cependant, ses yeux grands ouverts ne voyaient rien, et ses oreilles ne percevaient aucune parole, et ses lèvres ne prononçaient aucun mot. Et enfin, après des jours et des jours de marche, ils atteignirent les confins ouest du Doriath, un peu au sud du Teiglin, car ils comptaient passer les frontières du petit royaume de Fingol au-delà du Sirion, et parvenir ainsi au pont gardé, non loin de son confluent, avec les Sgalduin. Là, ils firent halte un temps, et ils firent étendre Nienor sur un lit d'herbe, et elle ferma les yeux, ce qu'elle n'avait pas fait jusque-là, et elle parut s'assoupir. Et les elfes se reposèrent eux aussi, et par pure lassitude, relâchèrent leur vigilance. Ainsi furent-ils attaqués par surprise par une bande d'orques chasseurs, de ceux qui rôdaient souvent désormais dans les parages, s'approchant du plus près qu'ils osaient des frontières du Doriath. Et dans le feu de la bataille, Nienor bondit soudain de sa couche, comme qui s'éveille la nuit avec épouvante, et dans un cri, elle s'élança sous le couvert des bois. Les orques aussitôt se retournèrent et la prirent en chasse, les elfes à leur trousse. Mais un étrange changement s'était opéré en Nienor, et elle les distança tous, volant comme une biche au travers des fourrés, ses cheveux épars dans le vent de la course. Mablung et ses compagnons eurent vite fait de rejoindre les orques, et ils les tuèrent sans merci, et reprirent leur poursuite. Mais Nienor s'était évanoui comme un spectre, et ils ne purent ni l'apercevoir, ni retrouver la moindre trace d'elle, malgré leurs recherches des jours durant. Et à la longue, Mablung revint au Doriath, courbé de chagrin et de honte.
« Choisis-toi un nouveau maître pour tes chasseurs, Seigneur, » dit-il, « car je n'ai plus d'honneur. »
Mais Méliane dit, « Non point, Mablung. Tu as fait tout ce que tu as pu, et personne d'autre parmi les serviteurs du roi n'en aurait fait autant. Mais ce fut ta mauvaise chance que d'affronter une puissance trop forte pour toi, trop forte en fait pour tous ceux qui vivent à ce jour en terre du milieu.
Je t'ai envoyé en quête de nouvelles, et des nouvelles tu en as ramenées, dit Fingol. Ce n'est aucunement ta faute si celles que ces nouvelles touchaient au premier chef se trouvent à présent trop loin pour les entendre. Douloureuse certes est cette fin de toute la famille de Hurin, mais on ne saurait te l'attribuer.
Car non seulement Nienor errait désormais par les grands bois, l'esprit égaré, mais Morwen aussi avait disparu. Et ni lors ni jamais plus, au Doriath comme au Dol Lomine, on ne devait apprendre quoi que ce soit de certain sur son sort. Néanmoins, Mablung ne put trouver le repos, et avec quelques compagnons, il s'en alla dans les solitudes sauvages, et durant 3 ans erra au loin, depuis les Eledwethrin jusqu'aux bouches du Sirion, en quête de traces ou de nouvelles des disparus.